Comment on fait les papas ?
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Hier, dimanche 13 septembre, on apprenait que la neurobiologiste française Catherine Dulac venait d'être récompensée pour avoir découvert les neurones de l'instinct parental. Il s'agit d'un prix scientifique créé par des entrepreneurs de la Silicon Valley, décerné donc pour avoir trouvé où se trouve l'instinct parental dans le cerveau de la souris. Je cite là une dépêche AFP. La contribution majeure de Catherine Dulac est d'avoir montré que mâles et femelles ont chacun en eux les circuits comportementaux des deux sexes. La différence est que les hormones activent l'un ou l'autre de ces circuits comme un interrupteur. Parfois, c'est l'autre circuit qui s'active, conduisant par exemple une mère stressée à tuer ses petits, on parle du règne animal, ou encore plus spectaculaire, un mâle à s'occuper de sa progéniture lorsqu'il devient père, et ces hommes, dont nous parlons aujourd'hui. Je note l'utilisation de la formule plus spectaculaire dans la dépêche qui en dit long aussi sur l'image de la place des pères dans l'éducation. Alors comment se voient-ils ces pères? Quelle place occupent leurs enfants dans leur vie? Nos invités, les écrivains Alexandre Lacroix et Pierrick Bailly, ont réfléchi à ces questions à travers une autobiographie épique pour l'un et un roman habile qui mêle les affres du quotidien à des éléments fantastiques. Car oui, finalement, n'est-ce pas un peu étrange d'être devenu parent à son tour? Avec Hugo Gaspard, journaliste qui a décidé de parler des pères autrement, et Jean-Baptiste Labrune, auteur de « Et père et maître » qui dresse un parallèle entre ces deux fonctions, père et maître. Évidemment, on parlera de l'amour, de l'affection, de l'autorité, ainsi que de la place des pères en regard de celle des mères. Un sujet que nous avions exploré début mars avec les autrices Virginie Linhart et Anne Berest. Mais on commence avec un peu d'actualité. Avant de parler des pères, on va évoquer les journées du patrimoine. Alors, on commence vraiment avec le nombre de classes fermées cette semaine pour cause de Covid. 524 jeudi, je peine à avoir de nouveaux chiffres aujourd'hui. Je vous indique que vous pouvez podcaster notre série sur la rentrée avec 3 numéros d'Être et Savoir. Comment retourner entre les murs des classes? L'école est-elle prête pour la rentrée? Le niveau des élèves a-t-il baissé pendant le confinement la semaine prochaine? En début d'émission, nous reviendrons sur les conséquences à long terme de l'accroissement des inégalités d'apprentissage. Deuxième info. Heureusement que Twitter ne sert pas qu'à propager des messages haineux. On vient d'y voir fleurir un hashtag « Balance ton bahut » et un autre « Lundi 14 septembre ». Ce sont des collégiennes et des lycéennes qui s'insurgent sur les règlements et réflexions de la part des professeurs et surveillants concernant leur tenue vestimentaire. Jambes et épaules nues sont proscrits parfois, des hauts sont considérés comme trop courts, on peut être renvoyé chez soi ou sommé de se changer. Marlène Schiappa, qui est ministre déléguée chargée de la citoyenneté aujourd'hui, les soutient. On ne sait pas si Jean-Michel Blanquer réagira, mais on espère que des confrères lui poseront des questions à ce sujet. Et puis, les journées du patrimoine, je fais le rapprochement avec les pères, il est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. En tout cas, ces journées se dérouleront le week-end prochain. Et vendredi, ce sera les journées des enfants du patrimoine. Bonjour Joël Beaugrasset.
Oui, bonjour.
Vous êtes président des CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et de l'association Les Enfants du patrimoine. Vous êtes à l'origine de l'opération Levez les yeux, et dans le cadre des 37e journée européenne du patrimoine, vous participez donc à ces journées avec un thème, patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. C'est la première fois que l'éducation est au centre des journées du patrimoine. Est-ce que c'est important d'organiser aussi une forme de rentrée culturelle après le confinement, le déconfinement et avec toutes les difficultés que nous traversons aujourd'hui, en particulier du côté du secteur culturel?
C'est 1200 classes qui se sont inscrites, soit environ plus de 35 000 élèves qui découvriront vendredi prochain leur patrimoine de proximité. Cette action qui est parrainée par Stéphane Bern en amont des Journées européennes du patrimoine est donc en France métropolitaine et ultramarine, et ce qui nous permet quand même d'avoir une diversité de 680 activités différentes qui vont du jeu de piste à travers la ville de Caen, une visite des monuments emblématiques comme la tour Perret à Grenoble, des ateliers de taille de pierre à Beauvais dans l'Oise, ou des visites guidées de la ville depuis un fleuve pour comprendre l'histoire de la ville, par exemple à Toulouse.
Patrimoine de proximité, ça veut dire que la culture, ça commence près de chez soi. Explorer les alentours, c'est efficace pour éveiller l'intérêt des enfants?
Absolument. Enfin, quand on est issu d'un territoire, il y a une culture locale. Et je pense que le fait déjà de s'ancrer dans cette culture locale nous permet aussi d'aller vers la curiosité et aussi vers d'autres cultures une fois qu'on est fier de la sienne.
Et concernant ce mot patrimoine qui parfois est brocardé par les féministes pour son étymologie, est-ce que le fait qu'on parle aujourd'hui aussi de matrimoine pour certains lieux, pour certaines traditions, certaines œuvres, vous choque?
Pas du tout. Après tout, si c'est un débat de mots, c'est bien dommage. Mais si c'est un débat de fond, le fond est aussi bien qu'il soit patrimoine paternel ou patrimoine maternel. Ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours cette transmission derrière.
Et merci beaucoup Joël Beaugrasset. On rappelle que la journée des enfants du patrimoine se déroule vendredi dans toute la France, ainsi que les journées du patrimoine qui sont ouvertes à tout le monde, à toutes les familles par exemple, qui se dérouleront elles samedi et dimanche.
France Culture, Être et Savoir, Louis Touret.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts.
Peut-être parce que j'ai beaucoup entendu des enfants chanter ce texte, à coup sûr parce qu'il est parfait, je souhaitais vous faire écouter ces mots de Stromae. La chanson Papa Outé est sortie en 2013, elle est devenue un sidérant hit de cours de récré à l'époque. Tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne sait comment on fait les papas. On a peut-être des éléments de réponse dans vos livres, des exemples. En tout cas, bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Votre livre vient de sortir chez Alary Éditions, La naissance d'un père. C'est une sorte d'autobiographie.
Oui, c'est effectivement la chanson de Stromae, c'est un très bon point de départ pour moi, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que si beaucoup de chansons, de livres, de romans autobiographiques traitent du père, c'est-à-dire que beaucoup d'écrivains parlent de leur père, de leur quête du père, comme Stromae ici qui parle de son père, qui est en quête d'un père absent. Ça c'est vraiment fréquent dans notre civilisation, on est en quête de son père, mais on parle peu de ce que ça fait que d'être soi-même père. Et les écrivains, les romanciers, se décrivent rarement à la première personne du singulier comme père. Alors, moi, dans ce roman qui fait 500 pages, j'ai voulu raconter 18 ans de ma vie qui sont particuliers parce que le roman démarre avec la naissance de mon premier enfant en l'an 2000. Il s'arrête quand ce premier enfant a 18 ans et entre-temps, il y a eu 4 autres naissances, donc 5 enfants en tout. Ce qui fait que sur ces 18 années relatées dans le livre, en permanence, le narrateur, c'est-à-dire moi-même, c'est un roman autobiographique, ne cesse de changer des couches, de donner des petits pots, de se réveiller la nuit, de vivre des grossesses, d'attendre la venue des enfants, de leur apprendre à marcher, de leur enseigner le langage. Et ce vécu très concret, en fait, du quotidien de la paternité, c'est ça que j'ai voulu raconter dans un roman. Donc précisément raconter comment on fait des papas, en tout cas comment moi je me suis fait papa au contact de mes enfants, comment mes enfants m'ont fait papa, en fait.
Avec plein de questions, plein d'anecdotes, on est vraiment dans votre quotidien. Vous êtes également enseignant à Sciences Po, cofondateur d'une école d'écriture, Les Mots, et puis on vous connaît aussi comme directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. D'ailleurs, il y a un bon dossier sur l'enseignement à distance dans le dernier numéro. Pierrick Bailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous vous êtes aussi à votre manière emparé la question de la paternité. Le roman s'appelle « Les enfants des autres ». Il a été publié chez POL au début de l'année. Je l'ai lu pendant mes vacances du mois de février. J'étais assez passionnée par ce point de départ très étrange où un homme, tout à coup, un jour, d'un jour à l'autre, n'est plus père alors qu'il avait une famille. Il devient un homme sans enfant. Et tout change un peu autour de lui.
Oui, c'est le point de départ de l'histoire du livre. C'est-à-dire que c'est un homme qui rentre chez lui, il croit avoir des enfants, il est persuadé d'en avoir, il en a pour lui. Il rentre du travail, il demande à sa femme, et ça va, les garçons. Sa femme lui répond, de quel garçon tu parles? Et il atterrit donc, il revient, il arrive dans un monde où il n'a plus d'enfants.
Il est désespéré.
Ah bah oui, il est totalement... Je crois que c'est peut-être que c'est la chose la plus horrible que tout parent puisse imaginer, c'est de les perdre. Mais là, je l'ai traité d'une manière romanesque et fictionnelle, quoi.
Ah, c'est pas les perdre, c'est ne pas les avoir, parce que les enfants existent dans cette espèce de réalité parallèle. Je sais pas si parfois certains parents se demandent pas si la vie serait plus cool sans enfants. C'est une autre question. En tout cas, tous les deux, je vais pas passer l'émission à essayer de faire le lien entre vos ouvrages, mais il y en a un, c'est le désir de paternité. Un désir dont vous dites, Alexandre Lacroix, qu'il est finalement peu mis en avant. D'abord parce que dans la psychanalyse, on dit que c'est la mère hein, qui veut des enfants. C'est devenu une idée extrêmement commune et peut-être et sûrement même que ça date d'avant. Et vous l'assumez, ce désir d'être père.
Oui, c'est vrai. Je raconte une anecdote comme ça au début du livre où je croise un vieil ami, un ami d'adolescence qui me dit « Mais ça te fait combien d'enfants maintenant ?» Je dis « Bah j'en ai 5 ». Et elle me dit « Ah bon, c'est ta femme, elle t'a obligé ?» Et donc effectivement, comme si ça pouvait pas venir du côté de l'homme, voilà cette volonté d'avoir des enfants. Bon, moi je fais partie des gens qui ont eu derrière eux une famille détruite. En fait, je suis profondément marqué par le deuil, j'ai perdu assez jeune mon père quand j'avais 11 ans. Et c'est vrai que je pense que par rapport à d'autres personnes qui sont dans ce cas, d'avoir une famille un peu dévastée derrière eux, la possibilité de créer une famille à son tour, c'est-à-dire d'aller vers la vie, de projeter en fait sa famille du côté de la descendance, sans se sentir un héritier d'une ascendance qui est détruite, coupée, sectionnée, eh ben c'est ça l'origine probablement du désir d'enfant pour moi. En tout cas, la paternité, la quête de paternité a été importante dans ma jeunesse à travers cette figure du père absent. Et puis, les enfants ont été constamment présents dans ma vie. Alors, c'est vrai que sur le vécu des pères, il y a une sorte de non-dit. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, je pense que la société a bougé. Les pères sont rentrés dans les salles de naissance. Ils se réveillent la nuit, donnent le biberon. Ils sont beaucoup plus présents dans les aspects de l'éducation même des tout petits enfants. Et pourtant, ils n'en parlent pas, ils ne disent rien de cette expérience. Moi, j'ai eu l'impression, à des tas de moments, quand je racontais par exemple les accouchements dans le détail, dans le livre, de mettre des mots sur des expériences qui n'avaient pas été racontées, sur lesquelles il n'y avait pas de modèle. Vous savez, quand vous écrivez, si vous racontez une rencontre amoureuse, il y a 1000 modèles préexistants. Si un personnage masculin va prendre la main d'une femme, il y a Stendhal et plein d'autres auteurs qui sont penchés sur vos épaules comme ça. Là, si vous voulez raconter, par exemple, la sonde du monitoring, qui est toujours mal fixée sur le ventre de la mère, vous savez, quand on est jeune parent, elle glisse, et puis on se dit, mais alors, c'est bizarre, parce que du coup, l'enregistrement des secousses et de l'espacement, des contractions, elle va être faussée, parce qu'on ne sait pas bien s'en sortir quand on est parent, on est dans cette attente un peu nerveuse, on ne sait pas y faire. Ben, cette sonde du monitoring, par exemple, j'ai jamais croisé dans un roman. Et plein de choses de même. Les caprices des enfants in extremis le matin quand on les habille, qui retardent le moment de partir pour l'école. Ça a l'air d'être... En fait, c'est un peu épique. C'est pour ça que moi, je tisse toujours une analogie avec l'épopée. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais tout d'un coup, on peut se retrouver avec un enfant qui, parce que ça... Une petite fille qui, parce que sa couette est mal faite, ou un enfant parce que ça... Les enfants, par exemple, les petits-enfants sont très attachés à leurs chaussettes. Ils sont... La manière dont elles sont tire-bouchées, dont l'élastique leur fait mal ou pas, nous les blesse ou pas, ça les inquiète. Et si les chaussettes sont mal mises, ils veulent plus à l'école, ils se braquent. Et là, il y a une lutte frontale. Et tout d'un coup, on décrit cette lutte comme un duel. Eh ben, ça, je l'avais pas vu avant en littérature. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un matériel extraordinaire qui est le tissu même de nos vies, ce quotidien de la paternité, ce quotidien de la vie de parent, qui est absent de la littérature et c'est presque une friche. On peut y aller avec des moyens littéraires et essayer de mettre des mots précis. Mais alors, à chaque fois, c'est vraiment une page blanche. Faut trouver ces mots. Et j'ai résolu, enfin, il me semble que j'ai résolu le problème du caractère extrêmement quotidien ou banal de ce que je décrivais, de la matière décrite, avec cette analogie avec le roman de chevalerie. Comme s'il y avait quelque chose d'une cavalcade permanente dans la vie de parents. Surtout quand les enfants sont jeunes, bah c'est la cavalcade.
C'est la course, c'est l'expression oui. qu'on emploie souvent. La double journée des femmes exprime bien cette idée de cavalcade. Concernant finalement, ce territoire en friche que serait la littérature paternelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Pierrick Bailly, est-ce que vous vous êtes senti libre dans votre ouvrage aussi? Vous décrivez des scènes du quotidien, des loisirs avec les enfants. Je pense à l'acrobranche. Bah, on s'y voit quand on a pu s'adonner à cette activité avec ses enfants, les enfants à l'arrière des voitures. On est dans tout ce qu'il y a de plus quotidien puisque votre personnage, Bob, va fréquenter ses enfants qui sont devenus les enfants des autres. Voilà, comment vous vous êtes autorisé à écrire tout ça? Est-ce que ce sentiment de liberté vous a touché?
Oui, bien sûr, c'est quotidien, c'est intime, c'est familial. Et c'est vrai que ce sujet semble, même en littérature, semble plus comme si c'était le territoire des femmes, des autrices, des écrivaines. Et l'homme, j'ai l'impression, c'est une image un peu générale, mais l'écrivain, homme, tendance à traiter de grands sujets, à parler du monde, et comme si la famille ou les enfants ou la paternité ou la maternité étaient des petits sujets. L'homme fait des gros livres, il fait 1000 pages, il fait pas un petit livre de 100 pages sur ses enfants, il fait 1000 pages sur le terrorisme. Elroy, Pynchon, il y a quelque chose d'impressionnant, il y a toujours cette idée de faire quelque chose d'ambitieux et impressionnant. Et d'ailleurs, les hommes lecteurs parfois aiment aussi ce genre de projet qui peut-être qu'il les écrase un peu et je sais pas, peut-être qu'il y a une volonté de compensation chez ces auteurs, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je sais pas d'où ça vient. Je peux pas vous l'expliquer. Mais j'écris beaucoup avec cette matière très quotidienne de mon vécu de père ou de mari ou d'enfant aussi, puisque j'ai aussi écrit un livre sur mon père. C'est avec ça que je veux écrire. C'est ça que j'aime aussi trouver dans les livres des autres. Et je pense qu'il faut que les hommes s'autorisent à parler de leurs enfants et avec tout ce que ça a de trivial, oui.
Et je tiens à dire que ce que vous dites n'implique pas que dans vos ouvrages, il n'y ait pas de violence, de sexe, de drogue et d'alcool. Enfin, la drogue, c'est plutôt chez vous, Pierrick Bailly, avec les médicaments, sans raconter l'histoire. Mais cet homme qui n'a plus ses enfants, on semble un peu perdu. Est-ce que pour vous, la paternité, ça tient un homme?
Ah oui, ça peut structurer une vie, bien sûr. Et puis à certains moments, c'est très déstabilisant. Pour des choses vastes, la privation des libertés, qui est quand même effective.
Du parent.
Oui, du parent, des deux parents.
Les femmes peuvent en parler, oui.
Oui, des deux parents, oui. Et quelque chose, quand on s'occupe de ses enfants, parce que là, il se trouve que c'est un père qui n'a pas ses parents, qui n'a pas d'aide, ça se passe dans un milieu populaire, qui est le mien. Donc, j'ai pas mes parents, ni ceux de ma femme autour de chez moi. On n'a pas les moyens de se payer des babysitters, des nounous, des trucs comme ça. Donc, on s'occupe à 100% de nos enfants, hormis quand ils sont à l'école ou à la crèche. Et c'est cette histoire-là. Et forcément, ben, on connaît aussi la fatigue, on connaît les caprices, les crises du matin. Il n'y a pas très longtemps, j'ai emmené ma fille à l'école, comme tous les matins. Elle n'a pas voulu vraiment, c'était horrible, dans la rue, ma deuxième fille est encore en maternelle. Avec les masques, le Covid, on ne peut plus rentrer dans l'établissement. Et elle a fait une énorme crise. J'avais une centaine de parents autour de moi et c'était impossible. Il se trouve que ce matin-là, je travaillais pas. J'ai pu la ramener à la maison, l'apaiser. Et puis, j'ai appelé le directeur. On y est retourné une heure après. Là aussi, c'est un petit récit quotidien d'une vie de père aujourd'hui.
Une vie qui a sa part d'épique, mais peut-être qu'on utilise ce mot parce que on parle des pères et que c'est une manière de le valoriser aussi. Est-ce qu'il faut valoriser la fonction paternelle? Vous allez me répondre, Alexandre Lacroix, mais je voudrais vous faire écouter les propos d'Hugo Gaspard. Il est journaliste. Il avait fondé un premier magazine, Daron, ce qui veut dire père en argot pour ceux qui ne le savent pas. Il va en lancer un autre en février prochain. Son credo, c'est de s'adresser aux pères d'aujourd'hui.
Pour moi, écrire pour les pères, c'est venu d'un double constat. Il y a d'un côté, on a la presse parentale, bon, dans son ensemble, hein, qui donne que peu ou pas la parole aux pères. Puis de l'autre, on a une presse masculine qui aborde, mais alors pas du tout, les sujets liés à la famille, à la paternité. Et moi, à titre personnel, je me retrouvais nulle part en tant que lecteur. Je suis père de 3 enfants, je suis journaliste. Surtout, je voyais aucune raison objective d'exclure les pères de ces problématiques d'éducation, de santé, de psychologie de l'enfant qui, moi, m'intéressaient. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment que les pères s'emparent. Pour moi, il ne s'agit pas de présenter les papas comme des super-héros du quotidien. J'ai pas envie non plus de donner des leçons, de stigmatiser. En fait, j'ai envie de donner des clés, de créer des espaces de réflexion pour que les pères qui sont déjà impliqués se sentent confortés et puis convaincre les autres à le faire. Alors, moi, j'essaye de le faire avec humour, avec sérieux aussi, parce qu'il faut traiter ces sujets-là avec beaucoup de sérieux, mais aussi de l'autodérision. Parce que, en tant que père, on doit collectivement faire plus, s'impliquer plus dans la lutte contre les stéréotypes de genre, contre les inégalités. Et puis surtout, il faut arrêter avec cette idée que le papa doit aider à la maison. Alors, le papa, il doit prendre sa part de la charge mentale, de la charge éducative de la famille, et notamment s'impliquer dans les tâches un peu plus ingrates, moins valorisantes du quotidien, comme le ménage, prendre les rendez-vous chez le médecin, et pas uniquement s'occuper des activités de loisirs avec les enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, mais des modèles familiaux. La famille, elle est monoparentale, recomposée, homoparentale. Donc forcément, les lignes, elles bougent, et le prisme à travers lequel on peut parler de la paternité aussi. Il y a plein d'études récentes qui montrent là que les pères des nouvelles générations ont envie de s'impliquer plus, de donner du sens à la paternité, c'est très bien. Mais ils sont parfois rattrapés par des mauvais réflexes liés à leur propre éducation, au patriarcat, et à la manière aussi dont on voit la paternité dans la société, au travail. C'est aussi pour ça que moi je milite pour l'allongement du congé paternité pour le deuxième parent. Parce que c'est dans les premiers jours de l'arrivée d'un enfant que on prend les habitudes, mais aussi les mauvais réflexes. Puis pour moi, c'est un vrai levier d'égalité, parce que ça va aussi faire bouger les choses dans les entreprises et mettre fin à certaines discriminations liées à la maternité, comme la justification des différences salariales, le frein aux promotions. Et puis surtout, j'imagine ça comme un moyen pour les papas de prendre conscience que ça peut être très valorisant d'être père et de s'impliquer.
Voilà, Hugo Gaspard, journaliste spécialiste de la parentalité et de la paternité, donc qu'on doit valoriser, mais sans faire passer les pères pour des super-héros. On parlait de l'épique qu'il y a aussi dans ces descriptions, hein, des scènes de la vie parentale. Chez vous, Alexandre Lacroix, aussi chez Pierrick Bailly, Alexandre Lacroix, je vais vous faire réagir tous les deux, hein, sur ces propos qui ont été tenus par Hugo Gaspard.
Je rejoins assez ces propos. Après, c'est vrai que il me semble qu'en général, dans toute la littérature qui concerne la puriculture, hein, au sens très large, on est vraiment rivé à des aspects un peu d'organisation, des aspects matériels, les grilles horaires pour les tétés, les conseils pratiques, et on loupe un peu une dimension de l'expérience qui, à mon avis, est nettement métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se joue quand même dans le fait d'avoir des enfants, pour chacun de nous, pour les pères comme pour les mères, c'est le rapport à la vie et à la mort. Vous prenez, quand vous décidez d'avoir un enfant, une décision extrêmement grave, puisque vous mettez au monde un être mortel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la vie est une chance. Donc, d'ailleurs, sinon, j'aurais pas eu 5 enfants. Mais vous prenez quand même une décision grave, puisque vous condamnez quelqu'un à mourir en même temps que vous lui offrez la possibilité de vivre. Et donc, toute naissance implique une mort, toute mort implique une naissance. Ce sont des choses un peu graves que je dis là tout d'un coup. Mais c'est pour ça que c'est épique. C'est pas parce que le père est un super-héros que le quotidien est épique. C'est épique parce que, comme dans les épopées, on va au cœur de la problématique humaine, qui est l'inquiétude que nous avons devant la mort, notre désir de nous perpétuer, mais également on prend position, c'est-à-dire on fait une sorte de pari, celui de prolonger l'élan très fragile de la vie sur une planète un peu comme ça décimée, de prolonger cet élan très fragile et de faire un saut par-dessus le néant. Il y a un saut par-dessus le néant. Donc c'est une vraie décision philosophique, une vraie décision métaphysique, et il me semble que cet aspect-là, un peu lourd, un peu tragique, un peu à la fois de lumière mais aussi de ténèbres qu'il y a dans la paternité ou dans la maternité, il est peu décrit par la littérature qui s'occupe de puériculture.
Pierrick Bailly, les ténèbres, on les fréquente un peu hein, dans votre livre, en tout cas dans ce qui arrive aux personnages, avec des moments où on ne sait pas si on est dans la réalité, une réalité alternative ou un rêve. C'est vrai que ça, c'est la parentalité, c'est la paternité qui vous a inspiré tout ça, même si c'est présent hein, dans vos autres livres.
Oui, finalement, je n'avais même pas prévu d'emmener le roman dans cette direction-là, mais il s'est retrouvé, au bout d'un moment, je me suis retrouvé à écrire un thriller. Quoi. Je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais devant moi, une sorte de thriller psychologique. Au départ, je voulais simplement parler de mes enfants, de ma vie avec des enfants. Et puis j'ai eu cette idée qui m'a emmené... En fait, je savais même pas vraiment où j'allais, mais je prenais beaucoup de plaisir à écrire cette histoire. Un peu comme quand on lit un livre de Stephen King et qu'on veut qu'on tourne les pages pour savoir ce qui va se passer. Je m'y remettais à chaque fois pour savoir à chaque fois ce qui allait se passer. C'est peut-être à mettre en parallèle avec l'expérience de la paternité. C'est une vraie histoire de suspense aussi, d'avoir des enfants. Ça change tout le temps, on sait jamais ce qui va... On passe notre temps à regretter des âges révolus et puis à affronter de nouvelles situations. Moi, j'ai peur de ce que vont devenir mes filles à l'adolescence. Tout ça, je sais absolument pas ce qui m'attend. Elles sont pas encore adolescentes. J'ai une fille qui a 10 ans, qui va bientôt se transformer totalement. Je sais pas ce qui nous attend.
Chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, maman.
Papa, papa, en faisant cette chanson. Papa, papa, je redeviens petit garçon. Et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous. Papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson. Maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Vous écoutez Être et Savoir sur France Culture. Nous parlons de la paternité. Nous en parlons avec deux écrivains, Alexandre Lacroix et Pierrick Bailly. La chanson qu'on vient d'écouter, vous avez reconnu, c'est la voix de Georges Brassens avec Patachou, une chanson de 1952 qui s'appelle Maman, Papa. Je vous conseille d'ailleurs de la faire écouter à des enfants. Les tout petits aiment beaucoup. Et dans cette chanson, dans le texte, on entend Brassens s'adresser à son père, un père dont l'amour est un petit peu lointain. Il ne se dit pas. Il est finalement marqué par une époque aussi, Brassens, et on a changé d'époque dans vos livres, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais dans vos livres, en tout cas, l'amour se dit, se témoigne, on fait des bisous à ses enfants. Le père n'est pas cet être distant, Alexandre Lacroix.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est amusant cette chanson de Brassens parce que il a composé les paroles, la musique, et il a eu par la suite à justifier. Mais pourquoi vous n'avez pas d'insolence sur ce thème? On a l'impression que c'est un hommage à l'amour du père, de la mère. Pas d'insolence et aussi des rôles qui sont très classiques, très très distribués, très séparés, très compartimentés, avec ce père absent, pas de caresses, pas de mots doux, il est lointain. C'est le rôle traditionnel du père. C'est ça qui est en train de se défaire un petit peu. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de grand plaidoyer sociologique, mon roman c'est une histoire personnelle, ce n'est pas un acte de militantisme, mais il se trouve que quand mon premier enfant est né, en l'an 2000, j'étais écrivain à plein temps, enfin ça veut dire que en gros je tirais un peu le diable par la queue, je vivais dans une certaine précarité, mais ayant peu d'argent j'avais quand même beaucoup de temps, ça c'était le grand avantage, et jusqu'à ce qu'il entre en maternelle, pendant 3 années avec la mère, on s'est partagé les journées en deux, ce qui fait que je me suis occupé de lui de son lever vers 7h du matin jusqu'à 13h tous les jours pendant 3 ans. Je vais être franc, par moments c'était une astreinte, j'avais d'autres choses en tête, j'avais un livre à finir, des articles à rendre, par moments c'était une astreinte, mais ça a été aussi une chance formidable. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que alors on habitait à Avignon et il y avait la possibilité d'aller souvent dehors, on partait dans les rues, et j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que je dirais que ça a été pour moi le creuset de l'expérience de la paternité. C'est pas une théorie, j'avais pas de projet de créer une famille nombreuse, j'avais pas de modèle familial, j'avais pas de grande planification de mon existence comme père, simplement ça s'est installé dans le concret, c'est-à-dire le fait de changer la couche, de faire le bain, de l'habiller, de partir. Et je dirais que les enfants, ce qu'il y a de très beau, les petits-enfants, ils vous rendent le monde une deuxième fois. Votre regard d'adulte est complètement blasé. C'est-à-dire, vous ne voyez plus les choses, vous ne voyez pas les canards, vous ne voyez pas les oiseaux, vous ne voyez pas les fleurs, vous ne voyez pas les hélicoptères dans le ciel. Et tout d'un coup, quand vous déambulez avec un petit enfant avec vous, il vous fait remarquer le monde à nouveau. Il vous rend présent au monde. Le tractopelle qui est dans la rue, ça peut devenir l'objet d'une contemplation esthétique avec un enfant, une personne, un mendiant, un clochard, vous allez passer votre chemin, mais pourquoi il est dehors? Il va vous le faire remarquer, et tout d'un coup, le monde prend un relief. Certaines personnes font de la méditation pleine conscience pour essayer de s'ancrer, d'être présent au monde, mais je dirais que rien ne vous ramène au présent aussi bien que le fait de partager des jeux d'enfant ou de partager une promenade avec un enfant.
C'est vrai. Même si vous n'avez pas vraiment répondu sur le côté affectif, peut-être que Pierrick Bailly va avoir des choses à dire là-dessus. Si j'ai passé cette chanson de 1952 aussi, c'est pour marquer le temps qui passe et les générations. Dans vos livres, vous faites des allusions tous les deux aux grands-parents. Chez vous, Pierrick Bailly, la mention, la place de la grand-mère est extrêmement importante. Mais vous dites un mot sur le grand-père. Donc c'est le personnage qui parle. Mon grand-père passait directement de l'usine au café et attendait que tout le monde dorme pour rentrer. Le week-end, il tenait la buvette du foot. Il était pompier volontaire. Il allait à la chasse et aux escargots. Il n'était jamais chez lui.
Ouais, je dis aussi que c'est à cause de nous, les pères d'aujourd'hui, que les cafés ont fermé dans les villages. Parce que maintenant, on passe directement du boulot à la maison. On va plus au café. Et mon grand-père, il avait 8 enfants. Et on m'a toujours raconté qu'il se souvenait plus de leurs prénoms. Par exemple, tellement il passait peu de temps avec eux. C'est la différence peut-être avec certains pères d'aujourd'hui. Mais là, j'ai vu le film Adolescente de Sébastien Lifshitz, qui est vraiment magnifique. Donc, c'est un film documentaire qui suit 2 adolescentes. On les voit dans leur vie à l'école, entre elles, avec les copines et les copains. Et puis aussi dans leur vie de famille. Et on ne voit que leur mère. Les pères sont absolument pas là.
Parce qu'il ne faudrait pas faire semblant, de faire comme si tous les pères aujourd'hui étaient impliqués. C'est ce que disait un petit peu Hugo Gaspard. Les statistiques, c'est triste, mais c'est comme ça. Rappelle que l'implication des hommes n'est pas égale à celle des femmes dans l'éducation. Et aussi que plus on a d'enfants, du côté des pères, moins on s'en occupe. Bon, évidemment... C'est pas le cas d'Alexandre Lacroix. En tout cas, vous racontez même exactement l'inverse. Est-ce que cet effet de génération, vous le sentez aussi, pas seulement dans la quantité de temps passé, mais dans la qualité de la relation avec les enfants?
Je sais pas très bien vous répondre sur l'aspect sociologique. Sur l'aspect littéraire, où j'ai peut-être plus de compétences pour vous répondre, parce que j'ai pas de chiffres sur la sociologie. C'est vrai que là, c'est un impensé de la littérature. Enfin, c'est un non-décrit de la littérature. Voilà.
Comme nous le disions tout à l'heure. Ouais. Je voulais avancer une autre idée, puisqu'on donne souvent au père la place de l'autorité, de l'incarnation de l'autorité. On en a discuté avec un autre auteur, Jean-Baptiste Labrune, il est professeur des écoles à Paris. Il vient de publier « Et père et maître », c'est chez Flammarion, un livre qui raconte très 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 bien l'école, c'est pas notre sujet aujourd'hui, qui contient une véritable histoire. Et dans ce livre, Jean-Baptiste Labrune dresse un parallèle entre les fonctions de père et d'enseignant. Il a eu son premier enfant le jour de sa première rentrée des classes. Je lui ai donc demandé d'expliquer quels étaient pour lui les points communs entre le rôle de parent et d'enseignant, alors que les différences me semblaient, à moi, assez claires.
Les différences, je ne sais pas si tout le monde les voit les voyait en tout cas tant que ça, puisque on avait souvent des parents d'élèves nous accompagnant en sortie qui nous disaient à la fin « Mais comment vous faites tous les jours avec 25 comme ça ?» et qui prenaient conscience à ce moment-là de... Bah, que gérer un groupe de 25 dans une institution où on a des programmes, bah, c'est pas la même chose que de gérer son gamin à la maison. Après, sur les points communs, le premier point commun, il est corporel. Moi, c'est le premier lien que je tisse entre ces deux fonctions. C'est que c'est une façon de positionner son corps par rapport à l'autre. C'est une façon de s'adresser à lui. C'est une façon de guider. Alors, l'enfant, on va le guider dans la marche, on va le guider dans la façon dont il tient sa fourchette. L'élève, on va le guider dans la tenue du crayon, dans la tenue de la règle pour souligner le titre de la leçon. Le deuxième lien fort que je tisse entre les deux, c'est que éduquer, qu'on soit prof ou maître, quand on est éduquant, c'est le terme que j'utilise, c'est poser un cadre, c'est donner un cadre à la personne qu'on éduque. Ce cadre, on n'y est pas tout à fait extérieur, parce qu'il va nous obliger à modifier nous-mêmes notre relation au temps et à l'espace. Mais voilà, éduquer, c'est poser des bornes spatiales et temporelles à un élève ou à son enfant. Donc quand c'est son propre enfant, ça va être au début lui assigner un espace qui est son espace, qui n'est pas l'espace des parents, c'est l'empêcher de rentrer dans la salle de douche quand on est en train de prendre sa douche, c'est exiger qu'il soit à table en train de manger et pas en train de faire autre chose ou de regarder la télé ou je ne sais quoi. Et en classe, eh bien, ça va être assis à sa place, sortir au moment des récréations, se mettre en rang deux par deux à la ligne qui est la ligne de la classe. Voilà.
Il y a beaucoup de réflexions très nourries, de références d'ailleurs dans votre livre, Jean-Baptiste Labrune, et il y en a une qui a retenu mon attention parce qu'elle concerne ces deux fonctions, parents et enseignants, celle sur l'autorité. Et est-ce que vous avez fait le lien entre la manière d'exercer l'autorité pour l'homme que vous êtes et le fait d'exercer cette profession dans un milieu très très majoritairement féminin, puisqu'on parle de l'école élémentaire?
L'autorité, bien souvent, c'est un terme qui fait peur, c'est-à-dire que... pour ceux qui, c'est un terme qui a ses détracteurs et ses partisans d'une façon générale. Ces partisans vont en général justement défendre une autorité verticale, une autorité parfois frontale, brutale, où celui qui obéit et point barre. Voilà, on en reste là. Et c'est un peu le fantasme qu'il y a parfois autour du prof. Le prof, c'est celui qui commande, il dit l'élève obéit. Dans les faits, effectivement, j'ai pas tardé à voir que ça se passait pas comme ça. Et puis voilà, l'autorité elle a aussi ses détracteurs, des gens qui pensent que l'enfant est naturellement bon, que si on met les enfants ensemble, ils vont s'organiser pour le mieux, pour tout le monde. Et ça, je me suis rendu compte aussi très vite que c'était complètement faux. Quand on laisse des enfants se débrouiller tout seuls dans une cour de récréation, eh ben, il y a du harcèlement, il y a des insultes, il y a des coups. Et voilà, les enfants ne sont pas naturellement armés pour régler des conflits. Et c'est là que l'autorité, c'est là à mon avis qu'il y a une brèche pour que l'autorité soit un concept vraiment intéressant. Parce que l'autorité, elle est nécessaire. Mais j'ai envie de dire, elle est ni horizontale ni verticale, elle est diagonale, l'autorité. Elle se construit au jour le jour, d'abord en imposant ce cadre spatial et temporel dont je parlais tout à l'heure. Le grand défi de l'autorité, et le grand paradoxe de l'exercice de l'autorité, c'est que son but, c'est que les éducants, qui sont soumis à notre autorité, s'en affranchissent à terme. Donc ça va être de doter peu à peu les élèves ou nos enfants des moyens de s'affranchir des bornes spatiales et temporelles qu'on leur donne. Ça va être les rendre capables de lire l'heure, les rendre capables de se repérer sur un calendrier, de lire et d'écrire, évidemment. C'est l'apprentissage qui va leur permettre d'accéder à tous les autres savoirs. Donc notre autorité, elle doit à la fois être ferme, indiscutable, et en même temps, elle doit participer à sa propre disparition. On est les architectes de la disparition de notre autorité.
Il n'y a pas de genre pour cette autorité. J'ai envie de penser qu'il n'y a pas de genre. Vous, est-ce que vous avez fait un lien entre le fait d'être un homme dans une profession plutôt féminine, hein, puisque les hommes sont minoritaires à l'école élémentaire comme adultes?
La question que vous me posez, en fait, c'est est-ce qu'il existe une autorité naturelle auquel les hommes auraient plus accès que les femmes, en quelque sorte?
Ou qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Premièrement, j'ai fait l'expérience directement que l'autorité naturelle, soi-disant attachée au sexe masculin, c'était absolument faux. Moi, j'ai eu au début, comme tous les instits, des gamins qui m'ont retourné une classe parce que j'avais pas réussi à leur donner les bornes suffisantes. Et que voilà, exercer une autorité dans une classe, ça s'apprend, ça passe par la gestion des rythmes, sentir quand un élève commence à lâcher, son attention commence à faiblir, changer de modalité de travail. L'autorité passe d'abord par ça, et ça s'apprend, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que ça change rien. Après, ça reste très ancré dans les équipes qui sont, comme vous l'avez dit, très très majoritairement féminines. Quand je suis arrivé dans ma nouvelle école, parce que j'ai changé d'école cette année, on est deux garçons, et il y a une de mes collègues qui m'a dit « Ah, c'est super que ce soit un homme !» Je lui ai répondu « Mais ça change rien !» Parce que moi, je suis convaincu que ça change rien. Après, pour les usagers de l'école, que sont les parents et les enfants, il est possible que pour certains, il y ait des constructions sociales et culturelles qui font qu'un homme va être plus à même de représenter une autorité qu'on va suivre, auquel on va obéir. C'est à double tranchant. D'abord, si on exerce mal son autorité, si on est trop frontal, trop agressif, trop brutal, et ben ça va pas marcher sur certains gamins qui ne reconnaissent pas ce type d'autorité. Et inversement, si on a une autorité qui est, si on considère comme acquis justement cette autorité et qu'on lâche sur ces bornes qui sont posées, on va avoir des enfants qui ont l'habitude d'une autorité souvent paternelle, parfois brutale, voire violente, qui eux vont pas du tout capter ce qu'on attend d'eux à l'école, c'est-à-dire d'exercer comme on dit souvent leur métier d'élève. Ils vont pas capter qu'on attend d'eux, qu'ils respectent des règles, qu'ils se conforment à des normes attendues par tous, et eux ils vont attendre quelqu'un qui leur apprend sa volonté. Donc tout l'enjeu, qu'on soit un homme ou une femme, c'est de construire cette autorité rationnelle, cette autorité légale rationnelle, comme je le dis dans le livre en reprenant les propos de Max Weber. Voilà, qu'on soit un homme ou une femme, il faut construire ça à travers des conseils d'élèves pour faire accéder les enfants à ce qui sera en fait leur identité de citoyen plus tard et qui leur permettra de se reconnaître dans des lois partagées par une communauté.
Ce livre a failli porter un autre titre, Les enfants des autres, évidemment, ça fait clin d'œil avec le livre de Pierrick Bailly. Pourquoi vous avez changé, Jean-Baptiste Labrune?
Le titre, il m'est venu au début, ce titre-là, parce que justement le point de départ, c'était que la première fois que j'ai eu mes élèves, comme j'étais parent en même temps, la première chose qui m'a frappé, c'est que ces enfants sont les enfants des autres. C'est-à-dire que j'avais en charge, j'étais responsable de ce que d'autres parents, de ce que d'autres que moi avaient de plus cher au monde, en fait. Et l'idée, c'était de livrer mon parcours de prof qui construit des élèves, mais qui s'adresse aussi et d'abord à des enfants, donc aussi en lien avec les parents, puisqu'une de mes envies dans ce texte, un de mes projets, c'était de réconcilier les parents et l'école et de pouvoir créer un espace de dialogue aussi entre les parents et les profs. Et puis petit à petit, le projet s'est orienté sur un lien plus fort, un parallèle plus fort entre mon expérience et mon apprentissage de père, de parent, et mon expérience et mon apprentissage de maître. Alors, je compartimente forcément, parce que je ne sais plus quel humoriste disait ça au moment du confinement, mais il disait « si les profs parlent de la façon dont je parle à mes enfants, moi je vais lui casser la gueule au prof ». Alors, j'essaie de bien parler à mes enfants aussi, mais non, c'est évidemment pas la même chose. C'est évidemment pas la même chose. Mais après, oui, d'abord, cette vue d'ensemble qu'on peut avoir sur l'élève et de se projeter dans la vie qu'il peut avoir lui à la maison, Enfin, c'est tout bête, mais moi, j'ai toujours été très attentif, par exemple, aux problèmes de santé que peuvent avoir mes gamins. Tout à l'heure, j'ai un gamin, il me dit « Ah, je saigne dans la bouche ». Ben voilà, j'ai pris 5 minutes pour regarder. Il avait une carie énorme. Je suis allé voir le médecin scolaire. Je lui dis « Voilà, il y a un souci, il faudrait qu'on contacte la famille ». C'est des choses qui sont récurrentes, en fait, en réseau d'éducation prioritaire. Et c'est quelque chose auquel j'ai toujours été attentif. Parce que le gamin, il ne se limite pas à ce qu'il fait à l'école. Et sa vie, elle est. Voilà. Sa vie, elle dure. C'est 24 heures par jour, comme tout le monde. Et quand il rentre à la maison, il a aussi voilà, ses emmerdes, ses joies. Et je pense qu'on en est conscient. Après, dans les périodes difficiles, c'est. En classe, je veux dire, c'est parfois difficile de compartimenter. Moi, l'année où j'ai eu mon expérience la plus traumatisante, avec un élève particulièrement violent, j'avais mon fils qui était né un an et demi avant. Et le gamin, en l'occurrence, qui avait 6 ans, 7 ans, avait une intelligence affective, un rapport à la frustration, qui était plus ou moins de cet âge-là, de 18 ans, de 18 mois, pardon. Et quand je rentrais à la maison et que je retrouvais chez mon fils le même genre de crise, c'était extrêmement difficile à gérer pour moi. Puis bon, après, il y a le bruit de la journée, on a du mal à supporter les cris à la maison, voilà.
Jean-Baptiste Labrune, auteur de « Épère et maître », qui vient donc de sortir chez Flammarion. Pierrick Bailly, dans les pères que vous décrivez, on voit, on ressent la complexité à assumer ce rôle pour des hommes assez fragiles. Et justement, on parlait de l'autorité, là, avec Jean-Baptiste Labrune, on n'est pas du tout dans ce genre de relation, on est beaucoup dans le doute, d'être dans le peut-être le fait de chercher un peu sa place.
Oui, j'aime bien cette idée qu'on apprend à devenir père, quoi, et que c'est quelque chose qui est pas acquis. Au départ, on sait pas du tout où on met les pieds. Et puis, bon, j'ai beau dire, là, on a beau, dans le discours, tenir des propos un peu de père moderne et tout, mais les pères du roman, comme moi-même et comme tous les pères du monde, sont aussi très défaillants et un peu rusés parfois.
Alors, j'ai relevé le passage et je m'excuse de vous couper la parole, mais c'est vraiment... pour vous lire, puisque c'est page 190. J'ai beau me la jouer père moderne dans le discours, je dois bien admettre qu'elle donne beaucoup plus que moi, ma femme, Alexa. Hein. Combien de fois je fais semblant de ne pas entendre les cris la nuit, jusqu'à ce qu'elle se lève et sorte de la chambre. Combien de fois la journée je me réfugie dans le jardin en la laissant intervenir. J'ai l'impression de passer mon temps à inventer des astuces pour fuir les moments difficiles, pour éviter les tâches ingrates. Le soir, quand elle se tape les douches et les shampoings, qu'elle les met en pyjama, je vais m'enfermer dans la cuisine pour préparer le repas. C'est assez drôle, alors d'autant plus que j'ai lu, ça m'a gentiment fait rire, je n'envoie pas là de message personnel à qui que ce soit, mais une journaliste de Libération publiait un article tout récent sur une chercheuse, Laura Carpentier-Gaufre, qui est donc doctorante au Centre de Recherche International de Sciences Po, qui conduit une recherche donc sur l'évitement des tâches domestique. Le titre de l'article « La flemme au foyer » est assez hilarant. Alors, Pierrick Bailly, vous teniez à avoir l'honnêteté dans ce livre de témoigner de cela aussi.
Ah ouais, je parle de moi, puis même de père autour de moi. Je trouve que beaucoup d'hommes se sont mis à faire la cuisine et je pense que c'est un peu une feinte pour fuir d'autres tâches domestiques où on serait plus en lien avec les enfants, comme la douche, les mettre en pyjama ou quoi. Parce que finalement, quand on fait à manger, on est tout seul dans sa cuisine, on peut écouter la radio, de la musique, on peut penser librement, on n'est pas interrompu dans nos pensées. Alors que être vraiment avec eux dans des moments critiques, avec les enfants, la tranche un peu difficile entre 17 et 20 heures, c'est pas la même chose que même faire le ménage. Vous parliez du ménage tout à l'heure, mais moi j'aime bien faire le ménage. Je passe tout le temps l'aspirateur. Ma femme déteste ça, quoi. Bon, c'est pas, ça vous intéresse peut-être pas beaucoup, mais c'est aussi quelque chose où je suis tout seul. Je peux penser à mes romans ou à autre chose quand je passe l'aspirateur, quand je passe le balai ou la serpillière. Et j'ai l'impression que les hommes trouvent des feintes pour quand même garder un petit peu d'indépendance.
Il y a ce truc qu'on dit des femmes, qu'elles sont multitâches. Si vous avez écrit pour parler de tout ça, Alexandre Lacroix, c'est que vous sentez bien que pour vous, qui arrivez à assumer... j'ai totalement retrouvé des choses que disent les femmes aujourd'hui sur la charge mentale, sur le fait de devoir tout mélanger. Vous avez dit écrire avec des enfants dans la pièce, c'est extrêmement compliqué. Mais si vous en témoignez, c'est parce que vous êtes extrêmement à l'aise avec tout ça. Vous vous êtes senti comment pendant toutes ces années à assumer tous ces rôles, à avoir aussi autant d'enfants? Est-ce que vous êtes un père isolé, non pas de votre famille, mais dans la société?
Non, il y a vraiment une évolution. Et en fait, c'est vrai que le roman est divisé en trois parties. Ça correspond à des moments très différents de la vie. Le début, avec un enfant, on est très précaire, on a peu d'argent, on fait tout nous-mêmes. La deuxième partie, ça s'appelle trois enfants, mais une famille recomposée, avec les difficultés que commence à poser la famille recomposée. Et la dernière partie, 5, ils sont nombreux, les enfants, mais là, on a un peu plus de moyens et donc on est un peu plus aidé. Mon expérience, c'est que ça se métamorphose. Là, depuis un an et demi, par exemple, ma femme travaille tous les week-ends. Donc, c'est plutôt moi le week-end et c'est plutôt elle la semaine. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je sais que ce ne sera pas toujours comme ça. En fait, c'est quand on n'arrive pas à voir d'autre horizon que la période actuelle, qu'on a le regard fixé sur les corvées du moment et on se dit, mais c'est terrible, alors que ces corvées, elles évoluent avec l'âge des enfants, avec les configurations familiales. Voilà, donc je serais assez... Et par ailleurs, une chose sur l'éducation plus générale qui m'est venue en écoutant le témoignage précédent, je me disais, mais finalement, il y a vraiment, parce que ces mots, poser du cadre, avoir du cadre, l'autorité, les règles, la légalité, les lois, je me dis, il y a vraiment deux conceptions de l'éducation. En gros, c'est Platon contre Aristote. Il y a les gens du côté de Platon, là, il est du côté de Platon, clairement, c'est les géomètres. Platon est un géomètre, donc on trace un cadre en tant que bon géomètre, il est parfait, puis on essaye de l'appliquer au réel. Et puis on fait rentrer les gens dans le cadre en leur criant un peu dessus quand ils débordent le cadre. Ça, c'est une conception. Et puis, il y a une autre conception, ce serait Aristote. Aristote, il n'est pas géomètre du tout, il est biologiste, il aime observer les animaux, il aime observer les comportements, il est beaucoup plus attentif aux processus naturels vitaux. Et moi, je me reconnaîtrais plus là, pas être obsédé par le cadre, l'abstraction, la négociation, la légalité. T'as fait ci, alors je fais ça. Ça vaut tant. Moi, la cuisine, c'est vrai que c'est plus valorisant que la serpillière. Alors je ferai deux serpillières contre une cuillère. On n'en sortira pas de cette négociation. Donc, faire sauter un peu le cadre géométrique. Et faire confiance au devenir. Enfin, faire confiance au devenir. On devient parent. On devient père en face d'une mère, elle devient mère en face du père, les enfants sont là. Voilà, faire confiance à ce devenir commun, en fait.
Dans le livre, vous parlez aussi de la transmission de ce que vous êtes, de votre histoire, puis au-delà du savoir, de comment vous pouvez apprendre des choses à vos enfants ou les regarder apprendre, parce qu'ils apprennent assez bien tout seuls. On le lit. Cette question, elle est importante pour tous les parents. C'était important de le mettre dans le livre, Alexandre Lacroix.
Là encore, c'est vraiment une histoire personnelle et c'est différencié suivant les enfants. Ils n'ont pas toutes les mêmes stratégies, les mêmes parcours d'apprentissage sur les 5. Pas du tout. Ils ne sont pas du tout uniformes. Je poursuivrai ma réflexion sur l'éducation en disant que, à mon sens, et là aussi c'est très aristotélicien, ce qui marche le mieux, c'est le mimétisme. Au fond, quand vous dites à quelqu'un ce qu'il doit faire, il vous écoute d'une oreille très distraite. Il regarde plutôt ce que vous faites. Et en fait, à mon avis, les parents perdent leur temps à essayer d'imaginer quels sont les principes qui doivent, les grands principes ou les grandes valeurs abstraites qui doivent inculquer à leurs enfants. Les enfants ne retiendront qu'une chose, c'est ce qu'ils ont vu. Et c'est ça qu'ils vont reproduire. Et c'est mimétique. L'éducation est profondément mimétique. Donc je pense que si jamais ils vous voient lire, par exemple, vous n'avez pas besoin de leur dire tu dois lire, vous n'avez pas besoin de les... Si ils voient que vous accordez de l'importance à cette activité, et ça se fait un peu tout seul, ils vont se mettre à ouvrir des livres. S'ils ne vous voient jamais lire, mais que vous leur dites c'est important les livres, éteins la télé, mais qu'ils vous voient sur votre smartphone, sur Facebook, et puis que vous leur dites mais toi tu dois lire...
Ils iront sur TikTok.
Voilà.
Et non,
c'est
pas
le
sur Facebook.
Qui compte.
Et pourtant, vous disiez les paroles, mais il y en a une que vous citez, c'est celle des grands-mères italiennes qui disent aux enfants, c'est quoi la formule fati furbo, c'est ça?
C'est ça.
Veut dire? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là?
Mais c'est pas les grands-mères, hein. C'est en Italie, tous les parents disent sois fourbe, fati furbo, sois fourbe, sois rusé. C'est un truc qu'on dit tout le temps aux enfants, surtout quand ils ont eu le dessous dans une bagarre. Ils se sont fait taper par quelqu'un qui était plus fort qu'eux. Alors, une mère française, normalement, avec une psychologie habituelle de mère française, elle va se précipiter avec de l'arnica, elle va dire « Oh mon pauvre chéri, est-ce que tu en as parlé avec la maîtresse ? Tu sais qu'on peut résoudre le conflit par la discussion et le discours, c'est important. » Bon, En Italie, non, c'est fatifourbe. Ça veut dire la prochaine fois, sois plus malin, sois plus rusé que lui. Si t'es moins fort que lui physiquement, tu peux l'avoir par la ruse et lui tendre à piège. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Bon, on le dit avec le sourire. C'est peut-être pas toutes les mères italiennes, ni toutes les mères françaises, ni tous les pères. Est-ce que vous êtes posé la question de la transmission, Pierrick Bailly? Est-ce que vous vous la posez à la fois littérairement et puis à la fois dans votre quotidien de père, puisque vous en avez parlé?
J'ai rien de plus plus juste à dire que ce que vient de dire Alexandre Lacroix. Je trouve parfait sur le modèle et non le discours. Mais c'est désespérant parce que finalement ils prennent tous nos mauvais traits. Alors on s'échine à vouloir leur transmettre des choses et tout ce qu'ils prennent, c'est plutôt ce qui nous échappe. Sur l'idée d'être fourbe, j'ai un copain qui est comme ça et peut-être qu'il a raison, qu'il passe son temps à inviter ses enfants à mentir. Par exemple, quand ses enfants rentrent de l'école en disant ouais, une telle, elle a deux télés, trois tablettes, il lui dit tu lui dis que chez toi t'as quatre télés et quatre téléphones. Et souvent je suis un peu désemparé, mais en même temps je trouve que notre position à nous, que de ne pas oser être de ce côté-là, elle est peut-être un peu idiote.
J'ajouterai une chose, c'est que
Alexandre Lacroix.
Pourquoi je fais la comparaison avec l'Italie, c'est que la femme avec qui j'ai quatre enfants et avec qui je vis aujourd'hui, mon épouse est italienne, donc c'est une famille qui est biculturelle et il y a de vraies différences. Et au contact, donc elle parle en permanence italien à la maison, mais au contact de la culture italienne, j'ai compris des traits de la culture française. Par exemple, les petits français, je vais refaire une généralité, mais elle est juste, au square, ils disent, et même à leurs parents, ils disent « t'as pas le droit ». Ou alors ils disent « j'ai le droit ». J'ai le droit de manger encore un petit suisse, ou ils disent « t'as pas le droit de prendre ma pelle ». Le « t'as pas le droit », c'est même pas possible d'entendre ces mots. Le « t'as pas le droit » au square, avec des enfants entre 3 et 7 ans en Italie, vous n'entendrez jamais « t'as pas le droit ». Donc le légalisme, c'est-à-dire la vision platonicienne, là encore, géométrique, il y a des règles, il y a un cadre, il y a des choses qu'on a le droit et pas le droit de faire. C'est très très présent en France, dans notre système éducatif et dans notre manière d'aborder la transmission et l'éducation.
Mais enfin, respecter les lois, c'est pas mal comme axe éducatif tout de même.
Oui, alors pour comprendre, moi, un moment, pour comprendre ce qui se jouait entre l'Italie et la France, je me disais, mais finalement, en Italie, on va toujours, en France, on va partir de l'universel et du lointain pour revenir au particulier. Donc, ce qu'on a le droit de faire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis petit à petit, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire. Et puis en Italie, on va peut-être raisonner. C'est pas qu'on se fiche des lois, c'est qu'on raisonne en ordre inverse. C'est-à-dire, moi, ma famille, mes amis, la région dans laquelle je vis, on commence à se sentir un peu italien à l'extérieur de l'Italie, et puis on s'intéresse au cadre légal. Vraiment in fine, mais comme s'il flottait dans un lointain, comme si c'était un horizon. Donc on irait, on irait d'un côté, on progresserait du lointain vers le proche, et de l'autre, du proche vers le lointain. Et ça, c'est drôle, parce que je parle pas de ça spécialement dans le livre, mais c'est un formidable dispositif énergétique. C'est-à-dire, ça crée plein de situations, ça peut créer plein de situations tendues, d'incompréhension entre le mode français et le mode italien de voir. C'est un peu explosif.
Mais c'est toujours un bon principe en éducation narratif, que de déplacer le regard aussi. Ça permet de découvrir plein de choses chez soi et chez ses enfants. Un bon principe aussi, c'est l'humour. On en parlait, Pierrick Bailly. Ça, c'est une position qu'on défend dans Être et Savoir. Votre livre, Alexandre Lacroix, La naissance d'un père, est publié chez Alary Éditions. Le vôtre, Pierrick Bailly, Les enfants des autres, chez POL. Formidable roman. Ce sont deux lectures que je conseille absolument, tout comme l'ouvrage de Jean-Baptiste Labrune. Et bientôt, on pourra lire aussi un ouvrage jeunesse de Nicolas Mathieu. Je viens de relever ça aujourd'hui grâce à Avril Ventura. Nicolas Mathieu Goncourt 2018 va publier début octobre son premier album Jeunesse, La Grande École. Un immense merci à l'équipe d'Être et Savoir, Avril Ventura à la préparation de cette émission, Philippe Baudouin à la réalisation, Sylvain Latu était à la prise de son ce soir. On se retrouve en podcast ou lundi prochain à 21h. Demain, mardi, ce sera Aurélie Luneau à cette même heure. Bonne soirée à tous sur France Culture. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said, shoot. Oh, my daddy said.